Il était une fois un homme assez jeune, assez pauvre et somme toute assez heureux, car il aimait sa femme et leurs 4 enfants, pour lesquels il se plaisait à confectionner chaque année des souliers dorés, bottines vernies ou commodes baskets selon l'usage. Il était cordonnier. Il s'appelait Jean. Mais un jour, en mettant au monde leur 5e enfant, sa femme mourut. Jean fut désespéré, et le garçon nouveau-né ne le consola pas. Il était amoureux, il se révolta contre le sort, contre le monde entier. Il refusa de donner parrain ou marraine à l'enfant ainsi que le voulait la coutume de son pays, et refusa même de lui donner un nom ainsi que le veut toujours la coutume de bien d'autres pays. Jean s'enfonça dans son malheur comme dans une épaisse forêt, et au plus profond de cette forêt, il travaillait, travaillait sans jamais un mot, sans jamais un sourire, sans jamais une histoire à l'enfant nouveau-né. Or, au bout de quelques mois qu'il était ainsi perdu, Jean entendit venir par un bel après-midi quelqu'un qu'il reconnut immédiatement, bien qu'il ne l'ait pas vu depuis fort longtemps. C'était Dieu, tout bleu dans ses sandales bleues, qui faisait semblant de passer là tout à fait par hasard et qui lui dit « Bonjour Jean, tu pourrais me réparer ma sandale ? Oui, la gauche, il y a une éternité que la semelle est trouée. Je n'ai jamais le temps, tu penses, avec tout ce que j'ai à faire. Alors je me disais en passant par là que peut-être... » Jean prit la sandale et Dieu, déchaussé, se hissa sur un haut tabouret, se massa la plante du pied et poursuivit. « Dis-moi Jean, tu vas bien ? Vraiment bien ? Il paraît que ton petit dernier, comment s'appelle-t-il déjà, n'a toujours pas de parrain ? C'est très ennuyeux, tu sais, ça ne se fait pas. Oh, remarque bien, je comprends tes raisons. Je comprends tout, moi. Mais ce n'est pas une raison. Alors écoute, je veux te faire une faveur. Tu me répares ma sandale et je serai moi, moi-même, en personne, le parrain de ton fils. Je ferai de lui un bienheureux. On l'appellerait... Non ! Fit Jean en colère. Tu ne seras pas le parrain de mon fils. Tu n'es pas assez juste. C'est toi qui fais les riches et les pauvres, les forts et les faibles, les maîtres et les esclaves. Ton règne fait de moi un veuf inconsolé. Je ne te confie pas à l'enfant de mon amour. » Alors Dieu s'en alla, remercié, vexé, avec sa sandale réparée, et Jean retourna dans l'épaisse forêt de son deuil. Mais au crépuscule survint un tout rouge dans ses sabots dorés, quelqu'un que Jean reconnut immédiatement, bien qu'il ne l'ait pas vu depuis fort longtemps. C'était le diable qui faisait semblant de passer là tout à fait par hasard et qui lui dit « Bonjour Jean, tu pourrais me retirer le clou qui dépasse là ? Ça me rentre dans la corne, ça fait un mal de tous les dieux, c'est un véritable paradis. » Jean prit ses tenailles et le diable grimpa sur le haut tabouret, tendit le jarret et poursuivit.
« Dis-moi, Jean, comment vont les affaires? Il paraît que ton petit dernier, comment s'appelle-t-il déjà, n'a toujours pas de parrain? C'est embêtant, tu sais. Ça brouille les cartes, ce n'est pas du jeu. Veux-tu que je sois moi-même en personne le parrain de ton fils? Je lui donnerai une éternelle jeunesse, il connaîtrait l'amour, la richesse, la beauté. Et en échange, tu me donnerais juste une petite signature.
Non, fit Jean en colère, tu ne seras pas le parrain de mon fils. Tu n'es pas assez juste. Tu as deux poids, deux mesures. Tu punis des pires tortures les plus petites peccadilles et tu laisses passer les criminels les plus monstrueux. Non, je ne te confie pas l'enfant de mon amour. » Alors le diable s'en alla, remercié, vexé, avec son sabot réparé, et Jean retourna dans l'épaisse forêt de son chagrin. Mais quand la nuit fut tombée, s'en vint tout fauve dans ses chaussures de velours, quelqu'un que Jean reconnut immédiatement car il le voyait tous les matins. C'était le renard qui avait laissé parler ses deux maîtres et qui dit « Petit cordonnier, t'es bête, c'est à moi que tu vas le donner ton fils ton dernier-né. Je ferai de lui un petit malin, un gamin futé, rusé, plein d'astuces. En échange, tu m'installerais une niche bien douillette, on l'appellerait. »
Non, fit Jean en colère, tu ne seras pas le parrain de mon fils. Si Dieu ou le diable t'ont retiré l'usage de la parole, il doit bien y avoir une raison, et à mon avis, elle n'est pas jolie jolie la raison. D'ailleurs, à part te baffrer de poulets innocents, ce qui ne t'empêche pas de finir taillé en manteau de fourrure pour dame ou empaillé sur le manteau d'une cheminée, qu'est-ce que tu sais faire de si malin? Non, je ne te confie pas l'enfant de mon amour. »
Alors, le renard s'en alla, remercié, vexé. Jean sentit bien que les pressions allaient continuer. Alors, il décida d'organiser au plus vite un grand banquet, au cours duquel il annoncerait publiquement sa décision de ne donner ni nom, ni parrain à l'enfant de son amour morte. Et c'est ainsi que le lendemain soir arrivèrent tous les convives, les voisins, parents, alliés, anges et démons, et même Dieu, le diable et le renard, car Jean était malheureux, amoureux, têtu et cabochard, mais pas rancunier. Il avait donc convié les candidats recalés. Soudain, alors qu'on en était au dessert, que bien des bouteilles avaient été vidées, que les enfants dormaient, on entendit une voiture arriver dans la rue déserte. Chacun s'entre-regarda. On n'attendait plus personne, puisque tout le monde était là, et même Dieu, le diable et le renard. Mais déjà les chevaux s'arrêtaient. Une portière s'ouvrit avec un terrible grincement, et l'on entendit approcher, talons claquants, bijoux sonnant, celle que personne n'attendait ce soir. La grande star au manteau noir. Comme personne ne faisait mine de la reconnaître, elle se campa bien à la lumière, écarta un pan de son manteau, mit la main sur la hanche et partit d'un grand rire en hurlant.
« Alors, on a oublié de m'inviter ?»
Dans l'assemblée, se fit un grand silence, un silence de mort. Et dans ce silence, la mort reprit. Eh non, tu n'es pas si bête, petit cordonnier, pas si bête d'avoir dédaigné Dieu, le diable et le renard, mais à moi, tu ne le refuseras pas, l'enfant de ton amour. Je suis juste, moi, et je ne te demande rien en échange. Je pourvoirai aux frais de son entretien et de son éducation, et je ferai de lui quelqu'un de bien. Alors, devant la foule médusée, Jean se leva, invita la mort à entrer, s'inclina respectueusement devant elle et lui dit « Oh, madame, ma reine est celle de tous les vivants. Il est vrai que tu es la seule justice, toi qui n'épargnes ni le riche ni le pauvre, ni le fort ni le faible, ni le renard ni le poulet, ni ma femme ni celle du roi. Oui, tu es la plus amère de toutes les justices, mais indéniablement tu es juste. » Je te confie l'enfant de mon amour et t'accepte pour ma reine. Top-la, ma reine. La mort trinqua avec Jean, avec Dieu, le diable et le renard qui souriait jaune. Elle grignota quelques gâteaux secs pendant que Jean allait chercher l'enfant paisiblement endormi. Elle le lui prit des mains doucement, sans le réveiller. Puis elle remercia pour le café, salua l'assemblée et partit avec l'enfant. Pour la première fois de sa vie, la mort emmenait un mortel, non pas pour le tuer, mais pour l'élever. La mort marraine fut une mère charmante et tendre. Elle regarda grandir son filleul comme une belle plante, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Avec elle, il apprit à connaître l'eau et le feu, la terre et l'air. Elle lui enseigna les herbes qui guérissent et celles qui tuent. Elle lui montra les simples, les vertus, les poisons du corps et ceux de l'âme. Il connut la chimie, la philosophie et les nombres mystérieux. Il observa les astres du ciel, les étoiles de mer, les esprits animaux, l'anatomie du cerveau et la naissance des petits veaux. Elle l'initia bien d'autres mystères encore. Rien ne lui était interdit, sauf de pénétrer dans la cave fermée par une porte à 7 verrous. Parfois, il essayait de deviner, mais sa marraine le remettait à ses études. Elle le fit ainsi accoucheur, pharmacien, psychologue, pédiatre, psychiatre, chirurgien, rhumatologue, dermatologue, orthopédiste, généraliste, bref, elle fit de lui un vrai médecin, car la mort est grande pédagogue. Et l'on comprit alors pourquoi la mort avait demandé son fils à Jean. Elle avait eu envie d'inventer la médecine, sans doute parce qu'elle s'ennuyait dans un jeu où elle gagnait à tout coup, faute d'un adversaire à sa taille. C'était devenu la routine. Tuer, tuer, toujours gagner, c'était lassant. C'était à mourir d'ennui. Aussi fut-elle très heureuse quand son filleul atteignit l'âge de 20 ans, l'âge de se lancer dans le monde pour gagner sa vie contre la mort. Très fière aussi de l'avoir fait si savant, elle lui délivra son diplôme, lui légua son nom en le transformant juste assez pour qu'il n'effraie personne. On t'appellera dorénavant docteur à mort. Et ils s'en allèrent fêter l'événement au café du coin. Ils commandèrent du pain, des radis beurre et de la bière. Puis, avant de se quitter, ils s'embrassèrent et, un peu émus, la marraine dit à son filleul « Écoute-moi, petit, maintenant que tu es riche en connaissances, il te faut aussi devenir riche tout court. Je vais t'aider pour tes débuts professionnels, et voici comment. » Quand tu seras appelé auprès d'un malade, je viendrai avec toi. Je ne me rendrai visible que de toi, évidemment. Si alors tu m'aperçois au pied du lit du malade, tu pourras affirmer hautement que le malade guérira. Donne-lui alors n'importe quoi, de l'eau claire si tu veux, ton malade sera sur pied en 2 jours. Mais si en revanche tu m'aperçois au chevet du malade, à la tête du lit, c'est qu'il mourra à coup sûr le jour même, ne fût-il atteint que d'un malheureux petit rhume. Tu as bien compris, n'est-ce pas? Au pied du lit, il vivra, à la tête, il mourra. Et maintenant, on va sans crainte, où tu iras, j'irai, et tu me trouveras toujours à tes côtés. Ils se séparèrent. La mort regagna son royaume et le docteur Amor s'élança sur le chemin de la vie. Il chantonnait. L'appétit vient en mangeant, le sommeil vient en dormant, le rire vient en souriant, le sanglot vient en pleurant, et la mort vient en vivant. L'appétit vient en mangeant, la soif vient en buvant, et le rhume en se mouchant, la vieillesse vient en courant, et la mort vient en vivant. Et c'est ainsi que le jeune médecin s'en fut exercer son ministère. Tantôt seul, lorsque ses patients n'étaient pas alités, tantôt escorté de sa macabre institutrice. La mort, sa marraine, faisait comme elle l'avait dit, tantôt au pied, tantôt à la tête du lit, et c'était selon. L'on vivait, l'on mourait, l'on vivait, l'on mourait. Et jamais le docteur Amor ne se trompait, évidemment. Et comme il ne se trompait jamais, on se mit à le rechercher de plus en plus, évidemment. Lui-même s'attribuait modestement le mérite de la guérison, quand guérison il y avait. Je vous l'avais bien dit, il ne fallait pas vous inquiéter. Et parfois aussi il murmurait sombrement « Je vous l'avais bien dit, il n'y avait aucun espoir. » Son pronostic était toujours juste, infaillible, inexorable. Et toujours prédisant à coup sûr, le docteur Amor vit très vite s'accroître sa renommée, sa gloire, son prestige et ses honoraires. Bientôt, on appela à la ville le petit médecin de campagne et de là il partit jusqu'à la capitale où il fit vivre ou mourir des gens de plus en plus importants. Or, un jour, dans le royaume voisin, la fille du roi tomba malade. Le roi fit venir tous ses rebouteux ordinaires, guérisseurs, jeteurs de sorts, exorciseurs, médias, astrologues, météorologues. Tous ceux qui étaient en charge de la santé des grandes, ce monde accoururent au chevet de la princesse Aurore, qui s'affaiblissait chaque jour. Le roi se désespérait, ne savait plus à quel saint se vouer, ayant épuisé la liste de tous ceux qu'il pensait être en mesure d'intercéder auprès de Dieu, du diable et du renard. En vain. Il fit pendre 2 ou 3 astrologues, histoire d'obliger les autres à trouver une solution. Il se rendit compte alors que l'affaire était vraiment très grave, puisque, malgré la terrible menace, les autres restaient impuissants. Il essaya les promesses. Mon royaume pour un remède, la main de ma fille à celui qui la guérira, clamait-il dans tout le palais. Et malgré la splendide promesse, les autres restaient impuissants. Alors, soir après soir, après avoir une fois de plus constaté en l'embrassant qu'Aurore perdait la vie, le roi s'enfermait dans sa chambre, le cœur en morceaux. Là, il tentait de lire l'avenir d'Aurore dans les cartes, ces chères vieilles cartes que lui préparait son fidèle valet. Un soir qu'il était ainsi en larmes, des larmes si grosses qu'elles lui brouillaient la vue et l'empêchaient de distinguer l'as du 10 de trèfle, le valet osa prendre la parole devant son roi. « Sire, mon roi, j'ai entendu dire grand bien d'un jeune médecin dans le royaume voisin. Évidemment, il n'est pas d'ici, c'est un étranger, et on le dit de modeste origine. Alors, étant donné que vous avez promis la main de la princesse, je ne sais si... « Mais je m'en fiche !» sanglota le roi, car la douleur fait tomber bien des préjugés. « Qu'il soit prince ou cordonnier, s'il la sauve, je lui donne Aurore, si Aurore y consent. Et si elle n'y consent pas,
car la souffrance d'un père fait parfois avancer la liberté des filles. Je lui donne la moitié de mon royaume. Allons, cours le chercher. » Le valet dépêcha tous les coursiers du royaume au-delà des montagnes, au-delà des frontières. La quête prit 7 jours entiers. 7 jours durant lesquels Aurore s'affaiblissait toujours au milieu de la ronde des poseurs d'emplâtre, vendeurs de talismans, porte-bonheur, écarte-malheur, mauvais œil, bon pied bon œil, oiseau de malheur et autres charlatans. Le roi se repentait d'avoir fait pendre les quelques esprits libres et raisonneurs qu'il connaissait au motif qu'il s'était montré pessimiste. En tout cas, la vie d'Aurore ne tenait plus qu'à un fil. Lorsqu'au soir du 7e jour, le docteur Amor pénétra dans le palais assombri, il sembla au jeune médecin qu'il pénétrait dans une épaisse forêt. Il éprouva un curieux sentiment de reconnaissance. Le roi l'accueillit et réitéra sa promesse. « La main de ma fille, si tu la guéris et qu'elle consent, la moitié de mon royaume si elle guérit et ne consent pas. » Et sur la pointe des pieds, silencieux, ils pénétrèrent dans la chambre de la princesse. Or, il se passa ceci. À peine le médecin eut-il entrevu la jeune mourante qu'il sentit son cœur s'emballer. Son cœur à lui, qui n'avait jamais encore battu d'amour. L'or des cheveux répandus sur l'oreiller, autour du beau visage transparent, clos sur la tente de la nuit, le sourire à peine dessiné de la presque absente, le souffle secret échappé des lèvres qui dormaient, émurent le jeune homme au point qu'il oublia tout, se pencha sur elle et murmura « Oh, toi, je te sauverai. Dussé-je y laisser ma vie, oui, ma vie contre la tienne, mais tu vivras et tu m'aimeras. » Encore sous l'effet du coup de foudre, le médecin se redressa lentement et c'est alors qu'il aperçut celle qu'il avait complètement oubliée. La mort. Sa marraine était là. Et il fut paralysé de terreur quand il vit qu'elle se tenait au chevet d'Aurore, à la tête du lit de la princesse, dont elle avait déjà agrippé quelques cheveux. Alors, son sang ne fit qu'un tour, mais un tour complet. Et il fit ce que seul un grand amoureux est capable de faire quand il s'agit de sauver son amour. Doucement, il glissa ses bras sous le lit et, d'un seul geste, brusquement, il le souleva, tournoya sur lui-même et... Hop ! Reposa le lit dans l'autre sens, les pieds à la place de la tête, vice-versa, recto-verso, ni vu, ni connu. Tout cela n'avait duré qu'une demi-seconde. La mort en resta figée sur place, n'en revenant pas du coup d'audace de son filleul, qui l'avait habitué à plus de docilité. Elle grinça des dents, vexée à mort, et croassa. « Si tu crois que ça va se passer comme ça, mais tu verras, qui vivra, mourra, cassera, sara, etc., etc. » Et elle s'envola dans un grand froissement de linceul en continuant à bougonner sur l'ingratitude des jeunes. Tout cela n'avait duré qu'une demi-seconde. Mais voilà que déjà, tête bêche et tourneboulée, Aurore se réveillait et que l'adorable couleur de la vie lui mettait aux joues un peu de pêche, aux paupières du lilas, aux oreilles des cerises, aux lèvres des framboises. Et enfin, elle ouvrit les yeux qu'elle avait bleus, comme des myrtilles. Dans les pommes. Le médecin en tomba dans les pommes. Aurore avait eu pour lui le regard de la belle au bois dormant pour le prince charmant. Quand il revint à lui, il pensa « J'ai sûrement fâché ma reine. Mais nom de Dieu, du diable et du renard, tant pis, j'ai sauvé Aurore. Demain je la guéris, après-demain je l'épouse, elle m'est promise, je l'aime. C'est comme ça, on verra ce qu'on verra, un tibia c'est tout. » Aurore eut le bon goût, une fois guérie, de tomber amoureuse de son sauveur. Le fils du cordonnier se fit prince charmant. Le mariage eut lieu le surlendemain sous une immense corbeille de fruits. Ils héritèrent bientôt du royaume. Le roi avait pris goût aux cartes et, fatigué de tant d'émotions, ne se souciait plus de gouverner. Le sage docteur Amor dirigea le royaume, soulagé de n'avoir plus à exercer la médecine. Après le tour qu'il lui avait joué, il ne s'attendait guère à voir sa marraine venir l'assister et il préférait laisser une bonne impression de ses talents plutôt que d'avoir à l'éprouver. Aurore et le prince médecin étaient heureux. 10 ans passèrent. Ils étaient heureux. Ils avaient des enfants.
tout au plus, une petite angoisse pénétrait-elle parfois le cœur du prince médecin quand il embrassait Aurore. Tromper la mort, la berner par un tour de passe-passe, une acrobatie, une pirouette, ça doit forcément se payer un jour ou l'autre. Mais que faire? Que faire en effet, sinon serrer Aurore encore plus fort dans ses bras et protéger son bonheur? Que faire sinon se mettre à enseigner partout autour de lui les connaissances qu'il devait à sa longue fréquentation de la mort? Il ouvrit une école. Des guérisseurs, astrologues, rebouteux se firent étudiants. Tous apprenaient du prince médecin comment faire reculer sa puissante marraine. Aurore et le prince médecin étaient heureux. 10 ans passèrent. Ce qui fait 20 ans. Mais 20 ans pour la mort, ce n'est rien. Juste le temps de ruminer une vengeance contre ce filleul qui l'avait indignement trahi. Elle qui s'était saignée aux 4 veines pour lui faire continuer ses études. Elle qui lui avait consacré les meilleures années de son éternité. Et il l'avait trahi pour qui? Pour une gamine dont elle avait tenu la destinée entre ses griffes. Et voilà maintenant qu'il était aimé. Riche et puissant, passe encore, mais aimé, ça, c'était la goutte de sable qui fait déborder le sablier. Elle décida de le lui rappeler un soir qu'il jouait au bridge avec le roi, son beau-père, et deux valets. Elle attendit que vint le tour de son filleul d'être le mort. Il sortit de la pièce pour prendre l'air sur la terrasse, et quand il revint, il s'arrêta net, figé de terreur. La mort, sa marraine, était assise à sa place et tripotait ses cartes. Elle n'était visible que de lui, évidemment. « Mais ferme cette porte, voyons, » dit le roi à son gendre. « Tu vois bien que le vent fait bouger les cartes. » Et tandis que le docteur Amor fermait la porte, la mort reposa les cartes sur la table en soufflant vers lui. « Alors, on a encore oublié de m'inviter ?»«
Oh, marraine, bonsoir. » Vous êtes toujours la bienvenue. Je me demandais justement quand vous vous décideriez à donner signe de vie.
Ah bon? C'est donc qu'il t'arrive de penser à moi?
Souvent, hein?
Et dis-moi, comment se porte Aurore?
Marraine, soyez bonne joueuse. Je vous ai gagné Aurore, laissez-la moi. Vous voulez votre revanche à la crapette, à la belote, au billard, aux osselets?
« Rien de tout cela. Cesse de me provoquer, veux-tu? En fait, j'ai réfléchi. 20 ans ont passé, tu as quelques cheveux blancs. Tu arrives à l'âge où l'on commence à avoir la nostalgie des lieux de son enfance. Ne te plairait-il pas de revoir encore une fois la campagne où tu as grandi? »
« Tout à fait. J'en ai tout à fait envie. Allons-y tout de suite. »
fit le prince, trop heureux de voir sa marraine consentir à s'éloigner d'Aurore. Il s'excusa auprès de ses partenaires, déclara qu'il était fatigué et sortit rapidement. La mort prit son filleul en croupe sur son grand cheval blanc, le plus rapide de tous. En 7 secondes, ils franchirent 7 fois 7 montagnes, 7 fois 7 mers, et ils arrivèrent dans la clairière de son enfance. Rien n'avait changé. Tout était différent.
Dites, marraine, « vous me la montrerez, la cave où je n'avais pas le droit de pénétrer lorsque j'étais enfant. Vous savez, derrière la porte aux 7 verrous. »«
Eh, mais tu es devin, petit. Oui, bien sûr, je te la montrerai. C'est même pour cela que je suis venu te chercher. Toi qui as réussi à me tromper, tu es presque aussi grand que moi et tu mérites de connaître mon secret mortel. Viens, n'aie pas peur, voyons, je suis avec toi. » Mais couvre-toi bien, surtout, il fait froid pour un vivant là où nous allons. Garde le silence, tu vas découvrir mon royaume. Ne respire pas.
La mort déverrouilla la porte, verrou après verrou, et l'on dit qu'il lui fallut 7 années pour y parvenir. Le prince médecin avait maintenant tous ses cheveux blancs. Puis, sans dire un mot, elle poussa la lourde porte, précéda son filleul dans l'obscurité. Ils descendirent 3 marches et le docteur Amor sentit un froid glacial le saisir par la main. À peine eut-il posé le pied sur la dernière marche et tourné l'angle mort du couloir qu'il s'arrêta, le souffle coupé, pétrifié, ébloui. Devant lui, à perte de vue, brûlaient des milliers et des milliers de bougies, toutes serrées les unes contre les autres. Et c'était large comme une plaine de Russie, c'était vaste comme un désert d'Arabie, c'était profond comme une jungle d'Amazonie, c'était peuplé comme une cité d'Amérique, c'était mouvant comme une rizière de Chine, c'était vivant comme un feu d'artifice, brillant comme un sapin de Noël, fragile comme la flamme d'un shabbat. Le prince médecin frissonna, sa marraine le prit par le bras et le guida dans le fabuleux dédale, lui parlant à voix basse. « Tu te demandes ce que c'est, n'est-ce pas, mon cher filleul ? Eh bien, ce sont les lumières des vies. Chaque créature, humaine ou inhumaine, animale ou végétale, a sa flamme ici chez moi. Joli fichier, non ? Regarde, en voici une très longue, un enfant qui vient de naître. Celle-là, si courte et qui vacille, un vieillard qui s'éteint. Attention, n'éternue pas, voyons. De médecin que tu es, tu deviendrais assassin. Tiens, regarde ici. Elles sont toutes soufflées, quelle que soit leur longueur. Une bonne guerre, sans doute. Et c'est classé comment, ma reine ? Par pays, par religion, par espèce, par ordre alphabétique, géographique, par sujet ou par auteur ? Rien de tout cela. J'ai l'absolue mémoire du monde, moi. Je choisis comme je le sens. Je me fais parfois aider et avec mes trois vieilles amies, je fais de fantastiques chevauchées. Tu les connais, tu as passé beaucoup de ton temps à les combattre. Elles s'appellent la peste, la guerre et la haine. Enfin, la peste a changé de nom. Elle était trop reconnaissable et affaiblie à cause de toi et de tes médicaments et vaccins. Elle s'est déguisée en crabe et se fait appeler cancer. Avouez, ma reine, que vous êtes bien contente d'avoir trouvé adversaire à qui parler. C'était bien là ce que vous cherchiez, non ? Oh, ma reine, je vous connais trop bien. Et je sais que je vous dois de n'être pas un crétin inconscient, mais tout de même, j'aimerais bien savoir encore une chose. Qu'est-ce que tu veux encore savoir, petit savant ? Je voudrais savoir, ma reine... Moi aussi, j'ai une bougie ici chez vous. Eh, mais tu es devin, petit. Justement, nous y arrivons. Évidemment, tu as ta flamme ici chez moi. Pourquoi voudrais-tu faire exception ? Ce n'est pas parce que tu as gagné ta vie à lutter contre moi que tu échappes à ma loi. Attention où tu mets les pieds, voyons, c'est du suicide.
C'est celle-ci ? Mais ma reine, elle est très... très, très, très courte. On ne pourrait pas faire quelque chose, l'échanger contre une autre, celle-là par exemple ?
Celle-là ? C'est la vie d'une petite fille de 2 ans. Tu veux la lui prendre ? Moi, je veux bien.
Arrêtez, arrêtez, ma reine. Évidemment, non, je ne veux pas. Je suis un homme, un médecin.
Et le docteur Amor, ayant mesuré le peu de temps qui lui restait à vivre, prit congé de sa marraine, quitta la cave, puis la clairière de son enfance. Il lui fallut 7 mois pour arriver au château, où son absence était diversement commentée. Il expliqua qu'il revenait d'un important congrès. Puis, il mit ses affaires en ordre, embrassa Aurore et mourut.
Chacun sait que dans les contes, les romans, les feuilletons, les films,
Il est impossible de finir une histoire comme dans la vie. Lecteurs et spectateurs s'indignent et menacent de ne jamais plus acheter un livre, de ne plus jamais aller au cinéma, de ne plus jamais regarder la télévision si l'histoire finit mal, si la mort vient en vivant. Alors, bravement, l'auteur ou le conteur se remet au travail, poussé par Dieu, le diable ou le renard, ou par ceux qui se prennent pour Dieu, le diable ou le renard, et cherche une solution, une autre version, un espoir. Reprenons, disent-ils, reprenons à l'endroit exact où les choses ont commencé à se gâter, et tâchons de trouver une issue. Arrêtez, arrêtez, ma reine. Évidemment non, je ne veux pas. Je suis un homme, un médecin. Écoutez, j'ai une idée. Puisqu'il me reste si peu de temps à vivre, remontons vite au chaud. Je veux passer mes derniers instants avec vous. Allons boire mon dernier verre au café du coin. Et c'est ainsi que l'on vit, une fois de plus, la mort et le médecin attablés au café du coin avec du pain, des radis et de la bière. Quand il fut réchauffé, le docteur Amor prit la parole. « Alors, ma reine, c'était donc ça ta vengeance? Tu te venges en me faisant savoir quand et comment tu me prends? Tu es un peu sadique avec les médecins, non? Pourquoi es-tu si mauvaise avec moi? D'accord, je t'ai berné, mais après tout, c'est toi qui m'as appris à être malin. En fait, ma reine, tu es jalouse d'Aurore, non? Tu n'es pas si puissante que ça pour être jalouse d'une mortelle. Tu es même un peu mesquine, un peu petite, quoi. Enfin non, petite, j'exagère. Tu n'es pas assez petite ni assez souple pour aller chercher ce moucheron au fond de la bouteille, là, tu le vois? Regarde comme il se débat, il essaie de ne pas se noyer, il veut t'échapper, le petit moucheron ivre qui te résiste. Tu le vois? Où ça? Où ça? Où ça? Fit la mort en se penchant pour apercevoir le moucheron qui s'obstinait à vivre. Et elle se pencha, et elle se tortilla, et elle se contorsionna. Elle passa une première vertèbre dans l'embouchure, et une deuxième, et une troisième. Alors, d'un seul geste, le docteur Amor saisit le bouchon et, hop, reboucha la bouteille. Il avait emprisonné la mort. Après quoi il finit tranquillement ses radis beurre, régla l'addition, empaqueta soigneusement la bouteille et rentra au château. Il déposa la bouteille tout en haut de l'armoire à pharmacie, hors de portée des enfants, et scotcha dessus le numéro de téléphone du centre antipoison. Le temps passa. Personne ne mourait plus, évidemment. On vieillissait. Plus on vieillissait, plus on faisait des projets, on essaie, plus on vieillissait. Les conflits de génération s'embrouillaient. On plaignait Mathusalem, fauché à la fleur de l'âge, et personne ne riait au souvenir de Sarah qui avait enfanté à 90 ans. Bientôt la crise du logement devint terrible. Non seulement il y avait surpeuplement, mais encore 4 générations d'architectes s'empoignaient, guerroyaient. Les guerres s'enlisaient, froide ou chaude, la planète jouait au ballon prisonnier, et l'on se mit à s'ennuyer vraiment, à mourir d'ennui, sans mourir. Ça ne pouvait plus durer, les gens en avaient assez de l'éternité. La mort maintenant leur manquait, c'était elle après tout qui avait fait d'eux ce qu'ils étaient. On envoya une délégation à Dieu, au diable et au renard, ils se déclarèrent incompétents. Alors quelqu'un eut l'idée d'aller chercher Jean, le cordonnier, le père du prince médecin. On le trouva facilement, il n'avait pas bougé. Il pleurait toujours son amour morte dans l'épaisse forêt de son chagrin. Et Jean comprit tout. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, Jean sortit de sa forêt. Il alla jusqu'au château en portant des bottines vernies, souliers dorés ou commodes baskets à ses innombrables petits, arrière-petits, arrière-arrière-petits, petits-enfants. Et pour la première fois de leur vie, Jean regarda son fils, Jean sourit à son fils, Jean raconta une histoire à son fils. Le docteur Amor écouta son père en souriant, puis il alla à la salle de bain, prit la bouteille en haut de l'armoire à pharmacie et parlementa avec la mort qui continuait sa sieste sous la poussière.
Tu t'ennuies, hein, ma reine, depuis deux siècles que je t'ai coincée là. Écoute, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils te réclament. Moi, je subis des pressions terribles. Mon père lui-même est venu me dire qu'il souhaitait le repos. Alors, si tu veux, je te relâche. Mais à la condition que jamais, jamais tu ne touches un seul cheveu d'Aurore, ni de nos enfants. Jure, et je te libère.
La mort jura. Le prince médecin déboucha la bouteille. La mort s'extirpa de sa prison et partit sans un regard. La mort reprit du service et se remit à tuer. Elle emporta d'abord le roi et le valet. Et elle prit Jean, le cordonnier, puis les enfants de Jean et parmi eux le docteur Ramor qui s'éteignit en dormant à l'âge de 250 ans. Mais la mort tient toujours ses promesses. Jamais elle ne toucha un seul cheveu d'Aurore. Et c'est depuis ce temps-là qu'elle se lève tous les matins, Aurore, la douce Aurore, suivie de ses innombrables enfants, les heures, les minutes, les secondes et les délicieux petits instants.